les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Haïm Corsia, bonjour.
Bonjour.
Nous avions envie de faire un mot assez gai aujourd'hui, c'est-à-dire la musique. Apparaît-elle souvent, cette musique, dans les textes bibliques ?
Très régulièrement. Évidemment, la figure tutélaire du roi David s'impose. Lui qui a composé ses 150 psaumes au son de sa harpe. Mais tout au long de la Bible, la musique est omniprésente. Par exemple, lorsque les Hébreux s'apprêtent à sortir d'Égypte, on a toujours en tête le chant qu'ils vont lancer devant Dieu, devant le monde. Mais juste avant, les femmes emmenées par les tambourins de Myriam adressent un chant de louange à Dieu. Et l'instrument va accompagner cette musique. Dans la Bible, on raconte le premier homme qui a créé l'instrument de musique. Il est référencé comme celui qui a créé l'instrument de musique. On a, un peu plus loin, dans les nombres, on a un passage sur les deux trompettes que devait construire Moïse pour rythmer l'avancée ou les arrêts du peuple, pour rythmer la guerre, la paix, le jubilé.
C'est pour rythmer les grands moments.
Et puis, comment oublier cet instrument de musique assez étonnant qu'on appelle en hébreu le chauffard, qui est une corne de bélier, qu'on utilise tout le temps dans notre rite pour le grand pardon et pour le nouvel an, et qui nous rappelle en permanence à la fois le jugement, mais aussi le sacrifice que Isaac était prêt à faire de sa vie. Au dernier moment, vous connaissez l'histoire, Dieu a remplacé Isaac par un bélier. Et en souvenir de ça, on sonne dans une corne de bélier. C'est quelque chose de très émouvant. Donc, la musique et les instruments de musique accompagnent le cheminement de l'homme. Peut-être parce que la musique, c'est plus fort que les mots pour toucher l'âme. Les mots sont enfermés dans la réalité de ce qu'ils disent. Et cette réalité, on est capable de l'obstruer. Par contre, les notes de musique s'adressent à quelque chose qui est au-delà de l'esprit. Et de manière générale, dans toutes les religions, la musique, une sorte de mantra musical, accompagne la prière. La prière, ce n'est pas uniquement des mots restés les uns après les autres. C'est avant tout une préparation personnelle pour adresser quelque chose qui dépasse même notre volonté, qui est une émanation, un produit de tout notre être. Et la musique, c'est cela. Hier soir, j'organisais un concert à Bordeaux avec la musique militaire de la région du Sud-Ouest. Ils ont débuté avec l'ouverture de Bergin, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que brusquement, ça nous sort de toutes nos vicissitudes. La musique est une façon de sortir l'homme de ce qu'il vit dans le monde. Et peut-être que lorsque le roi David s'accompagnait de musique pour les psaumes, c'est une façon de dire, voilà, avec cette musique, je retisse un lien que j'avais perdu avec le ciel. Si mes mots et mon cœur n'arrivent pas à trouver ce lien avec le ciel, la musique peut nous le faire. Et tous les amateurs de musique comprendront ce que je dis parce qu'on le vit. Quand on aime la musique, on le vit. Et ça peut être n'importe quelle musique. Lorsqu'on se détache des paroles que des chansons peuvent contenir, ou quand on est dans la musique classique où il n'y a pas de paroles, ou quand on est à l'opéra et qu'on entend, la mort de Mimi ou la flûte enchantée, il y a des passages d'abord qu'on a envie presque de chanter avec le chanteur, ce qui agace en général mon épouse quand elle est à côté de moi. Mais il y a surtout cette volonté d'être rattaché à l'inspiration de l'artiste, au génie du musicien qui l'exprime devant nous. Et peut-être que la musique nous donne la plus belle illustration de ce que Dieu rêverait pour les hommes. Chaque instrument est différent, et c'est qu'on arrive à conjuguer tous les instruments ensemble, qu'on arrive à sortir de la cacophonie pour exprimer quelque chose de quasi divin. Les hommes peuvent aussi arriver à la cacophonie, et peuvent aboutir à l'inverse, qui serait un orchestre avec que les mêmes instruments. Ça s'appelle l'uniformité. Il faut s'éloigner.
C'est pas mieux.
Non, c'est horrible.
Ce serait triste, oui.
Très triste. Il faut donc bannir l'uniformité pour arriver à produire l'unité. Mais pour produire de l'unité, il faut de la diversité. On arrive à le comprendre pour la musique, malheureusement, on arrive moins à le comprendre pour les hommes. Mais on a encore de l'espoir.
Haïm Corsia, dans les rites religieux juifs, est-ce qu'il y a souvent de la musique ?
Oui. Le chant. La musique avec instrument, un peu moins peut-être, même si, j'ai parlé de la harpe, mais il y a souvent des instruments. Mais le rite se fait souvent le samedi, et le samedi, on n'utilise pas les instruments de musique. Mais le chant est primordial pour nous. Par exemple, il y a le rituel d'avoir des chants à table le samedi. Tous les samedis, on doit déjeuner ou dîner en famille, on doit étudier et on doit chanter. parce qu'il y a des choses qu'on ne peut exprimer que par le chant. Et moi, je suis très
touché.
Vous
chantez bien ?
Bien. Aux autres de le dire. Ce que je sais, c'est que mon petit dernier qui a 3 ans, il m'a ému aux larmes la semaine dernière parce qu'il m'a chanté une mélodie. Vous voyez, c'est pas des paroles, c'est une mélodie. Celle que je chante depuis qu'il est né, donc. Celle que je chante le samedi soir, au moment où le samedi s'éteint et débute la semaine. On a un chant mélancolique et en même temps reposé, parce qu'on a eu le bonheur de vivre 24 heures de ce repos qui constitue le Shabbat, le samedi. Et en même temps, on est nostalgique de le perdre, de le voir un peu s'effilocher, ce Shabbat. Et il m'a chanté cette mélodie. Vous voyez, des choses qui passent, la transmission se fait par la mélodie, avant même de savoir le sens que c'était. C'était très émouvant. Il m'a chanté cette chanson, c'est comme ça. La la, la la, la la. Et un petit de 3 ans qui me dit pas ah, la la, la la, la la. C'était, je me dis, il a tout compris du Shabbat avant même de le. Vous voyez ce que je veux dire ? Il a tout compris.
Sa sensibilité a perçu la signification.
Et peut-être que c'est ça, on peut le faire percevoir par les chants qui transmettent un rythme. Les chants du mariage, ce sont des chants gays. Les chants du Shabbat sont gays au début du Shabbat, très gays le samedi midi, un peu nostalgiques le samedi soir. Les chants à la synagogue accompagnent tous les actes, la cantillation du texte de la Bible. La Bible, on ne la lit jamais, on la chante toujours, tous les passages de la Bible. Donc c'est important pour nous, le chant est consubstantiel à la façon de prier et de s'adresser à Dieu.
Il y a aussi une musique que l'on qualifie de traditionnelle juive. Je ne sais pas si elle date d'une époque, s'il y a plusieurs musiques différentes. En tout cas, il y a des grands musiciens juifs, c'est évident.
Oui, mais en même temps, quelle musique juive ? Il y a une musique juive d'origine séfarade, c'est-à-dire d'Afrique du Nord, qui est plus proche du judo andalou. La musique judo andalouse est magnifique, bon, au Maroc. Il y a aussi une musique ashkénaze, donc plutôt slave, d'origine slave.
Europe centrale,
avec des klezmers. Qui est festive et triste, qui porte à la fois toutes les contradictions de l'histoire du judaïsme dans l'espérance permanente et dans la souffrance assez récurrente. Cette musique, en fait, elle trouve sa source dans l'expérience de la vie. Ce n'est pas une musique plaquée sur une situation, c'est une musique issue de l'histoire, des situations. C'est-à-dire, sa source, c'est la vie des uns et des autres. Et donc, elle exprime toute la diversité de la vie, mais avec toujours cette espérance qui est vraiment l'essence même de ce qu'est le judaïsme.
Et dans la formation de rabbin, au cours de vos années de formation, est-ce qu'on apprend justement à chanter les textes de la Bible ? Parce que ça ne doit pas être évident tout de même.
Sur les textes de la Bible, oui, on les apprend, même si, je vous donne une mauvaise nouvelle, la musique est aussi une forme de don. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre aux uns aux autres à chanter.
Et oui.
On ne peut pas forcer quelqu'un à être un ténor d'opéra ou à être au moins même à chanter juste. Il y a une part de don. On peut entraîner. Par contre, on doit connaître la cantillation. La cantillation est une forme de commentaire de la Bible. C'est la musique est une forme de mise à disposition du texte. Parce que si vous coupez le verset de telle ou telle façon, ça donne un sens différent. Donc la musique est importante, le rythme est important. À l'école rabbinique, par le passé, il y avait un cours de chant qui malheureusement a disparu des programmes. Mais j'ai bonne ambition de le remettre un jour ou l'autre.
Alors, comme aumônier militaire, vous appréciez aussi la musique militaire, puisque vous êtes l'aumônier de l'armée française, aumônier israélite de l'armée française.
Est-ce qu'on pourrait imaginer l'armée sans sambrémeuse ? La musique accompagne nos défilés, accompagne, bon, je ne parle pas du temps jadis, où elle accompagnait la charge héroïque face à l'ennemi, mais la musique est un rythme. Peut-être que la musique est un rythme de vie, comme la musique rythme la marche au pas des militaires. Et chaque unité dans les armées, chaque unité a son rythme de pas. Le pas chasseur est un pas très rapide, 120 pas minutes. Le pas de la Légion est évidemment beaucoup plus lent. Le pas régulier tourne à 80 pas minutes. Et donc chacun a son histoire et chaque unité a ses chants traditionnels. Et je suis très attaché à ça, comme on peut être attaché à toute la tradition militaire.
Alors le 14 juillet, vous allez être présent au défilé.
Ah mais avec plaisir, honneur et bonheur.
Merci Haïm Korsia. On vous retrouve dans un prochain mot des religions.
À bientôt.